vous êtes féru d'économie, vous êtes toujours demandé est-ce que vous voulez dire CIPA, C-I-P-P-A, ben vous aurez la réponse tout à l'heure. Éric Bagassien, monsieur Éric Lefebvre et Claude Danican reçoivent, en tout cas dans Politique Première ce soir, le patron du CIPA. Éric Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Politique Première. Alors que la crise de la dette n'en finit pas de secouer l'Europe, alors que la question de la profitation et de la lutte contre la vie chère rebondit de département d'outre-mer en département d'outre-mer et secoue depuis un mois Mayotte, alors que le Parti Socialiste a choisi François Hollande pour défier Nicolas Sarkozy en mai prochain, nous recevons ce soir Alain Plaisir, dirigeant et fondateur du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, Alain Plaisir, nous nous intéresserons bien sûr au débat statutaire et institutionnel et bien sûr à la situation politique et sociale et au projet de société pour la Guadeloupe de demain. Nous nous intéressons également à un autre projet, celui du Grand Port, sur lequel l'ancien douanier que vous êtes a très certainement un regard très aiguisé. Mais tout d'abord, une question d'actualité, Alain Plaisir. La crise de la dette est sur tous les écrans de télévision, dans tous les journaux. La dette qui impose des cures d'austérité à travers toute l'Europe, y compris en France. Selon vous, Alain Plaisir, c'est un prétexte ou véritablement une obligation ?
Je dirais au préalable que le problème de la dette, c'est pas un problème nouveau. Hein. Pendant longtemps, on a parlé de la dette du tiers-monde. Et donc, comme c'était la dette du tiers-monde, ça n'intéresse pas grand monde. Mais le phénomène est toujours le même. Ce sont des États, dont la France, qui s'endettent et qui ont de forts taux d'intérêt à payer chaque année. Le problème, il devient dramatique parce que la France, comme d'autres pays, se sont privés de recettes fiscales. Notamment en France où M. Sarkozy a mis en place ce qu'on appelle le bouclier fiscal et on a réduit les recettes fiscales, les impôts. Et donc la France a moins de moyens, la France comme d'autres pays ont moins de moyens pour rembourser leurs dettes. Et vous avez en même temps la spéculation bancaire. Vous avez tous les gens qui font des transactions financières et l'argent circule d'un pays à l'autre. Et vous avez effectivement les agences de notation qui provoquent une certaine panique. Et donc il y a une réaction en chaîne qui est la cause de cette crise de la dette.
Alain Plaisir, est-ce que on a le sentiment quand on écoute à la fois les discours des politiques ou les commentaires des experts en économie, on a le sentiment que qu'on est obligé de passer par cette cure d'austérité, qu'il n'y a finalement face à cette dette qu'une seule réponse possible. Est-ce que c'est également votre point de vue? Est-ce qu'il n'y a qu'une réponse technique, ou bien au contraire, la politique fait qu'il y a différentes approches?
Ben, il y a plusieurs approches. D'ailleurs, il y a une approche assez radicale. Ça a été l'approche de l'Argentine. Rappelez-vous que l'Argentine était pratiquement faillite. Et les Argentins ont décidé, ont dit, nous ne remboursons pas la dette.
Ça, c'était au début des années 2000. Hein.
Voilà. Et donc, depuis, on n'entend pas parler de l'Argentine. Les choses vont bien. L'Argentine a un taux de croissance assez important et les choses ont redémarré. Et par contre, depuis plusieurs mois, on impose à la Grèce une cure d'austérité. Hein. On réduit sur les salaires, on réduit sur les pensions, on privatise les services publics. Et malgré tout, ça va de plus en plus mal. Et la raison est simple. Parce que quand vous prenez autant de mesures d'austérité, quand les gens ne peuvent pas consommer, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de rentrée fiscale, et il n'y a pas de croissance. Donc plus on met en place des cures d'austérité, moins il y a de croissance. Et comme il y a moins de croissance, il y a moins de recettes. Et donc, il y a une difficulté à rembourser la dette. Alors, évidemment, la France et l'Allemagne essaient de voler au secours de la Grèce, mais la France même a également des problèmes. Et donc, c'est pas une politique d'austérité qu'il faut mettre en place. Au contraire, il faut permettre à toutes les catégories sociales qui n'arrivent pas à consommer, ils sont nombreux. Par exemple, en France, vous avez plus de 5 millions de personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Il faut permettre à ces gens-là de consommer. Il faut réduire le taux de chômage qui a 3 millions en France, et ça va relancer l'activité. Donc, il y a notre politique à mettre en place, mais actuellement, les gens qui sont au pouvoir, dans tous ces pays, ce sont des libéraux qui ont préconisé un système libéral, Et ce système libéral, c'est moins de dépenses. Alors moins de dépenses, eh ben c'est moins d'infirmières, c'est moins de policiers, c'est moins de fonctionnaires, comme c'est le cas en France, où on supprime un fonctionnaire sur deux portant à la retraite. Et là, ça crée une véritable crise. Donc, en réalité, c'est la crise du système capitaliste. Et il faut imaginer notre société, et peut-être pour la France, il faut revenir à une société d'économie mixte qui a existé après la guerre, où il y avait un secteur public puissant, et donc faire en sorte, non pas de rendre précaires les emplois, comme c'est le cas actuellement avec le système libéral, où tout le monde est précarisé, y compris les fonctionnaires, puisque on remet en cause le statut de la fonction publique. Il faut donc remettre en place une autre économie, et j'espère que les peuples qui se révoltent de peu partout, ceux qu'on appelle les indignés, eh bien c'est ceux qui remettent en cause le pouvoir de la finance.
Oui, vous disiez qu'il faut créer des emplois pour tenter de résoudre le problème. Alors, les caisses de l'État sont vides et c'est la crise. Alors, qui va embaucher, comment?
Mais pourquoi les caisses de la France sont vides? Vous avez un président de la République qui, en arrivant, a fait deux choses. Il a augmenté son salaire. Bon, ça, c'est son problème. Mais en tout cas, il y avait de l'argent pour augmenter son salaire. Et en même temps, il a mis en place le bouclier fiscal. Une personne comme Mme Bettencourt, qui est au cœur de l'actualité, qui a une fortune de 17 milliards d'euros, eh bien, a eu un chèque de 30 millions en remboursement de trop perçu. Donc, vous voyez qu'il y a de l'argent en France. D'ailleurs, la France et après les États-Unis, le pays a le plus de millionnaires. Et les entreprises du CAC 40 n'ont jamais fait autant de profits. Donc, il y a de l'argent.
Donc, vous pensez qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres?
Eh bien, oui, si on veut parler très schématiquement, il faut faire payer les riches. Parce que si tout le monde était pauvre, on pourrait dire, bon, il y a pas d'autre solution. Mais vous avez des gens qui ont de l'argent. Et d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez vu le mouvement des indignés, ils appellent ça les 99%. Nous sommes les 99. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a 1% des gens aux États-Unis qui ont 23% des revenus. 23% pour 1%. Et que les 99% le reste, c'est-à-dire environ 75% des revenus. Donc, il y a de l'argent, mais vous êtes dans une société de plus en plus inégalitaire, et c'est la raison principale de la crise qui n'est pas une crise française ou grecque, qui est une crise mondiale et qui touche particulièrement les pays qui étaient auparavant les pays dominants. Parce que vous remarquez que dans les pays émergents, comme au Brésil, comme en Inde, il n'y a pas de crise. Je ne parle même pas de la Chine qui est un cas particulier, mais c'est particulièrement les pays où on a mis en place une politique ultralibérale qui sont en crise actuellement.
Question d'Éric Bagassian. Alors, vous dites qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Alors, comment, dans la mesure où n'y a-t-il pas là un risque peut-être de voir se délocaliser cette richesse, ces riches, et voir fuir ces riches?
Bon, alors déjà,
autrement dit, des moyens d'investissement pour le pays.
Non, mais ils vont pas partir parce que de toute manière, ils ont des intérêts en France. Mais déjà, de toute manière, il y a des délocalisations. Et prenons l'exemple de la construction européenne, l'Union européenne, 27 pays. Vous avez des pays qui sont relativement riches, comme la France, comme l'Allemagne, mais vous avez des pays qui sont relativement sous-développés, comme la Roumanie. Et vous verrez, par exemple, qu'une entreprise comme Renault construit la Logan en Roumanie, et parce que les salaires sont nettement moins élevés. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé déjà. Donc, de toute manière, nous sommes dans une situation où le marché mondial, où les capitalistes investissent l'endroit où ils font le plus de profit, et c'est ça aussi une raison de la crise. Et parce que vous avez en Europe la libre circulation des marchandises. Eh bien, qu'est-ce qui empêche une entreprise française de délocaliser? Alors, quand une entreprise française délocalise, on crée des emplois dans d'autres pays, mais également, la France devient importateur de ses propres marchandises. Donc, on mord sous la tête. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'autre solution qui est une meilleure répartition de la richesse. Il ne suffit pas de faire de la charité, il faut une meilleure répartition. Celui qui gagne plus, eh bien, il paye plus. C'est tout.
Donc, Ils peuvent tout de même s'installer à l'étranger, ça n'empêche pas. Cela fait également moins de rentrées d'impôts. On peut aller jusque là.
Ils peuvent s'installer à l'étranger. Mais c'est pour cette raison que si on veut qu'il y ait une construction européenne, Il faut véritablement une harmonisation fiscale en Europe. Hein. Ça a toujours été demandé par ceux qui disent l'Europe des peuples. Il faut une harmonisation pour que les gens ne soient pas tentés de partir ailleurs. Donc, de toute manière, assez régulièrement, on entend des gens dire « on va partir à l'extérieur ». On a entendu Guenée Hallyday dire « je m'installe en Belgique ». On a entendu récemment Madame Bettencourt dire « si on me met sur tutelle, je vais partir ». Mais en tout cas, ils restent quand même parce que ils ont leurs habitudes, ils ont des intérêts. Et s'ils partent à l'étranger, eh ben il faut prendre des mesures pour sanctionner ces personnes. Parce que après mai 68, il y a eu un mouvement vers l'étranger et on a mis en place le contrôle d'échange. Donc on peut toujours prendre des mesures pour contraindre ces personnes-là, en tout cas à payer des impôts en France.
Donc c'est un choix politique, très clair.
Voilà, c'est un choix politique.
Un choix politique qui va jusqu'à un secteur que vous connaissez bien également. On en a parlé là très succinctement, la politique fiscale, les impôts, on en discute, ça risque d'être sans doute un des thèmes au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous pensez qu'il y a là aussi quelque chose à faire sur l'organisation même du système fiscal?
Oui, il faut augmenter les recettes. Or, la politique qui a commencé de libérale, qui a commencé particulièrement en Europe avec Mme Thatcher, qui a réduit les impôts, qui a considéré que quand les gens seront plus riches, ils vont investir plus et ça va créer de la richesse. Bon, ça c'est une théorie, mais les faits montrent que cette théorie ne tient pas. Donc il faut plus de recettes fiscales. Alors plus de recettes fiscales, c'est augmenter la tranche des gens qui paient les impôts, faire en sorte qu'ils payent plus. Et faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas payer, comme c'est le cas actuellement, parce qu'il faut savoir que 50% de Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Par contre, 100% d'impôts de Français paient, et de Guadeloupéens aussi bien sûr, paient l'impôt indirect, c'est-à-dire l'impôt sur la TVA, l'impôt sur les taxes sur le tabac et d'autres produits. Bon, donc c'est pas tellement cet impôt qu'il faut augmenter, parce qu'il y aura une tentation. Il y a une tentation, par exemple, en France, pour augmenter les recettes, d'augmenter le taux de TVA. Or, si vous augmentez le TVA, vous pénalisez encore les classes modestes, puisque tout le monde, si vous achetez, c'est pas moi, des vêtements, que vous soyez milliardaire ou pas milliardaire, vous allez payer en France une TVA autour de 19,60. Donc, c'est pas cet impôt qu'il faut augmenter, c'est véritablement l'impôt sur le revenu. Et il faut rétablir l'impôt, ce qu'on appelait l'impôt sur la fortune, qu'on appelle maintenant l'impôt solidarité, que Monsieur Sarkozy a supprimé. Il faut rétablir, il faut faire payer beaucoup plus ceux qui ont de l'argent, pas pour donner aux pauvres comme ça, mais pour créer de l'activité. Vous manquez des infirmières, par exemple. Dans les hôpitaux, il n'y a pas suffisamment d'infirmières. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas les moyens de fonctionner. Je vois en Guadeloupe des gens, par exemple, qui ont le cancer et qui veulent faire ce qu'on appelle faire des radios, la chimio. Eh bien, on va aller après tapite. Alors, vous savez les problèmes qu'il y a, des problèmes de transport, des problèmes de... Bon, voilà, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et c'est l'État qui doit satisfaire ses besoins en équipement, plus d'écoles, plus de médiathèques, d'autres choses quoi. Il faut que l'État investisse. Et pour que l'État investisse, il faut qu'il y ait des moyens. Et donc il faut faire payer. Je reviens là-dessus. Il faut faire payer les riches quoi.
Éric Bagassi. Alors quand vous dites qu'il faut augmenter l'impôt sur les revenus, oui. Selon les derniers chiffres de l'IEDOM, 72% des foyers fiscaux de la Guadeloupe sont non imposables.
Oui,
alors, est-ce que vous allez faire payer davantage les quelques 20 et quelques pourcents qui déjà sont ponctionnés? Allez-vous les ponctionner encore davantage et quelques rogner sur leur pouvoir d'achat?
Ou encore élargir l'assiette, peut-être.
Voilà, oui. Pour faire rentrer l'argent, il y a deux choses. Deux possibilités en général. Ou faire payer tout le monde. Ce que moi je ne souhaite pas, ou faire payer plus à ceux qui peuvent. Moi je suis pour la deuxième solution. Alors évidemment, il n'est pas question de faire payer les classes moyennes, parce que actuellement c'est ça. Les classes moyennes supportent l'effort fiscal. C'est-à-dire vous et moi, nous payons. Oui, mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent.
C'est très peu.
Oui, mais ceux qui ont beaucoup d'argent ont de l'argent, ils savent même pas quoi faire avec l'argent. Vous savez, Madame Bettencourt,
restons à Guadeloupe, par exemple.
En Guadeloupe, on n'a pas, la Guadeloupe n'a pas un État. L'impôt sur le revenu est perçu en Guadeloupe, mais alimente les caisses de l'État.
Oui, mais imaginons qu'on fasse payer davantage ceux qui peuvent. Alors,
il y a en Guadeloupe, appliquons la situation à la Guadeloupe. Il y a en Guadeloupe environ 200 personnes qui paient l'impôt sur la fortune, qui ont payé, qu'on appelle l'impôt sur la fortune. Donc, il y a 200 personnes. Bon, ces gens-là peuvent payer plus, puisqu'ils vont se retrouver dans la tranche de gens qui peuvent payer plus. Ils ne seront pas pauvres pour autant. Et c'est même de leur intérêt de payer plus. D'ailleurs, il y a quelques riches qui disent bon, on veut payer plus, parce que si la situation reste comme elle est, ça va être la révolution et ces gens-là, ils perdront tout. Ils perdront tout parce qu'on mettra en cause réellement leur situation, leur fortune, et il y aura une révolution qui va essayer de changer radicalement les choses. Donc il faut faire payer parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Mais est-ce que de manière symbolique, c'est vrai que vous êtes pour la deuxième solution, à faire payer encore ceux qui payent, faire payer plus ceux qui payent déjà. Est-ce que de manière symbolique que tout le monde participe, ce serait peut-être certainement c'est parce que l'apport des ceux qui sont plus démunis qui va arranger la situation. Mais est-ce que dans un effort de solidarité nationale, en fait, trouver la formule qu'il y ait effectivement une participation également de la masse.
Non, je reste persuadé qu'il faut pas que tout le monde paie. Et pourquoi? Parce que je viens de vous dire, prenons le cas de la Guadeloupe, tous les Guadeloupéens paient l'impôt indirect, ce qu'on appelle les impôts indirects. Alors en Guadeloupe, vous payez n'importe quel malheureux, on va parler en Guadeloupe, c'est malheureux, quoi que ça, n'importe quel malheureux paie la TVA, on est d'accord.
Dès qu'il achète une voiture, il achète une voiture, à manger,
n'importe quoi. Dès qu'il achète un produit, que ce soit un produit acheté sur le marché local, il paie, hein, sauf évidemment ce qu'il va acheter au marché, quoi. Mais dès qu'il achète une marchandise, dès qu'il fait venir quelqu'un chez lui pour un travail quelconque, sauf si c'est un travail clandestin, clandestin. Vous payez la TVA. Bon, en Guadeloupe, c'est plus de 350 millions que nous payons de TVA. Et cette TVA, ce montant, alimente les caisses de l'État. Nous payons, quand vous avez un moyen de transport automobile ou mobylette ou compagnie, vous payez la taxe sur les carburants. C'est aussi aux alentours de 300 millions, répartis entre le conseil général, les communes et et la région. Bon, et vous avez la taxe sur carburant, vous avez l'octroi de mer, vous avez même deux octrois de mer, vous avez l'octroi de mer habituel, historique, qui va aux communes, et vous avez un octroi de mer régional qui existe depuis 1983, qui est la plus grosse recette de la région. Et sans compter d'autres taxes que vous payez sur les cartes grises, le tabac et compagnie. Donc tous les Guadeloupéens paient l'impôt. C'est vrai que tous les Guadeloupéens ne paient pas l'impôt sur revenu, l'impôt qui est visible. Mais l'impôt indirect, qui n'est pas indolore, mais qui fait mal, nous le payons. Donc, parce qu'ils paient déjà, tous les gens paient, et parce que cet impôt est déjà suffisamment injuste, parce que quand vous soyez milliardaire, ou que vous soyez SMICA ou RMIS ou petit retraité, la TVA que vous allez payer en Guadeloupe sous cette chemise, ce sera toujours 8,5.
Oui. Alors, s'il faut justement prendre la solution de faire payer plus ceux qui le peuvent, comment ça peut être efficace pour éjecter, réjecter pour que ça soit efficace et utile et profitable à tout le monde?
Ce sera utile parce que l'État, il va pas garder, il va pas théoriser l'argent, il va mettre l'argent dans la croissance. C'est-à-dire, je parlais des hôpitaux, il faut encore équiper les hôpitaux, il manque de fonctionnaires dans beaucoup de domaines, notamment au niveau de justement tout ce qui est hospitalier. Il faut arrêter de supprimer les fonctionnaires un peu partout. Donc il y a déjà cet aspect, et il y a aussi au niveau des équipements publics. Si vous faites ça, vous réduisez le chômage. Et si vous réduisez le chômage, les gens qui vont se remettre à travailler vont consommer. Et s'ils consomment, ça crée, premièrement, de la richesse, mais ça crée également de la croissance. Et ça crée, en plus, des recettes fiscales.
Alain Plaisir, ces questions à la fois de fiscalité et également de marché éventuellement de protection du marché, de développement d'une économie. Ce sont des questions qui sont au cœur même du projet qui est le vôtre, le projet du CIPA, qui s'appuie résolument sur ces outils, des outils qui ne sont plus véritablement aujourd'hui aux mains des politiques, des dirigeants de la plupart des grandes nations, à commencer donc pour la France. On est, puisque récemment le congrès, enfin on parle de une convocation pour le début de l'année prochaine, 2012, d'un congrès où l'on rediscuterait à nouveau de ce projet de société. Vous faites des propositions, et ces propositions, elles incluent donc ces dimensions à la fois fiscales et douanières.
Tout à fait. Oui, nous, ce qu'on disons au CIPA, c'est qu'il faut un projet pour la Guadeloupe, un véritable projet. Et on se rend compte que les gens qui dirigent la Guadeloupe, ils n'ont pas de projet. Ils ont demandé 18 mois pour faire un projet, ils n'ont pas fait de projet, ils sont là à gagner du temps pour garder le mandat. Or, il y a une véritable misère économique et sociale en Guadeloupe. Vous avez 62 000 chômeurs, le nombre augmente chaque année, vous voyez une violence qui se déculpe en Guadeloupe, et les gens qui sont au pouvoir, eh bien, ils ne proposent pas une alternative. Et donc, nous aussi pas. Nous avons travaillé et nous disons que il faut une autre économie, et notre économie, elle doit être basée d'abord sur l'agriculture, parce qu'on se rend compte que ce que nous consommons de plus en plus arrive de l'extérieur. Nous consommons environ 500 millions de produits agroalimentaires, et nous ne produisons que 12% de notre consommation de poulet, que 50% de notre consommation de viande, que 50% de notre consommation de poisson. Parce que de plus en plus, les capitalistes qui sont à l'import, eh bien, achètent des produits à l'extérieur, au bas coût. Et donc, ça coïncide à la disparition de nos activités de production. Et le pays devient de plus en plus dépendant, de plus en plus assisté. Cette misère est plus ou moins régulée par des transferts sociaux. On donne les RMI, on donne les RSA, on donne des allocations de toutes sortes, mais un pays ne peut pas vivre comme ça. Donc il faut remettre les gens au travail et il faut créer des richesses. Alors comment faire? Il faut donc relocaliser les activités de production qui ont disparu. Quand nous étions petits, eh bien, le lait qu'on consommait, c'était bien du lait qui était produit en Guadeloupe, on est tous d'accord. Bon, maintenant, le lait, il vient, on produit pas un gramme de lait. Enfin, en tout cas, les gens achètent du lait dans les supermarchés. La viande que nous mangeons. Donc, il faut mettre en place une nouvelle politique agricole. Cette politique agricole doit avoir comme but la conquête du marché intérieur. C'est une thèse, c'est la base de notre projet. La conquête du marché intérieur, c'est pas aller conquérir des marchés à l'extérieur, parce que nous sommes dans une situation mondiale où le capitalisme est triomphant, et ce capitalisme est basé sur des règles, et dont ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Vous n'allez pas faire acheter de la banane de la Guadeloupe à des importateurs qui se trouvent en Europe, alors qu'ils peuvent acheter cette banane, nettement moins chère au Salvador, à Costa Rica, au Nicaragua. De même, il est de plus en plus difficile de vendre notre sucre, parce que les importateurs préfèrent acheter du sucre du Brésil, de l'Inde ou d'ailleurs. Donc, on a une difficulté à augmenter nos exportations. D'ailleurs, ces exportations ont tendance à disparaître. Et par contre, on a un potentiel de développement à partir du marché intérieur. Donc, c'est complètement prendre le contre-pied de la politique qui est mise en place actuellement, qui consiste à nous dire aller prendre des niches à l'exportation, mais quand on regarde les résultats, eh bien, en termes d'exportation, on exporte que pour 175 millions de marchandises et on achète pour 2,3 milliards. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, on ne peut pas arrêter les importations, mais dans les secteurs où nous pouvons produire, notamment dans la culture, dans l'élevage, eh bien, il faut produire. Alors pour produire, il faut trois conditions. Premièrement, il faut organiser le marché, c'est-à-dire mettre des statistiques, combien on consomme, combien on produit, combien il y a comme importation, donc ce qu'on appelle l'organisation du marché. Deuxièmement, il faut produire suffisamment pour satisfaire la demande. Et troisièmement, il faut protéger nos producteurs.
Alors, on en arrive à une question importante, avant que je cède la parole à Éric Bagassian. On en arrive à un point important, vous parlez de protection du marché, ça veut dire qu'il faut changer un peu la donne ou les règles du jeu, en tout cas pour ce qui concerne la Guadeloupe. Ça veut dire donc modifier le statut, modifier le rapport avec la métropole, avec Paris, avec la France et avec l'Europe également. Ce que vous proposez, ce que vous réclamez.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai pas.
Alors c'est quoi ? C'est l'autonomie.
C'est l'autonomie. C'est l'autonomie et nous disons dans notre projet une large autonomie. Pourquoi ? C'est pas une approche idéologique, c'est une approche pragmatique pour protéger notre marché intérieur, pour aider nos producteurs à produire. Eh bien, il faut un autre système douanier. Il ne faut pas que le système douanier soit le système douanier européen. Vous savez bien que le système douanier qui est appliqué en Guadeloupe, c'est même pas le système douanier français, c'est le système douanier européen. C'est-à-dire, les Européens ont mis en place un système pour protéger leur production, pour permettre à l'économie européenne de se développer. Et nous, on applique, on est obligé d'appliquer puisqu'on est français et européen. Et donc, nous, ce que nous disons, il faut un régime douanier propre à Guadeloupe qui permette de décider quel type de marchandise qui rentrera librement en Guadeloupe. Je vais prendre un exemple. Hein. Il n'y a aucune raison de taxer les médicaments. Il n'y a aucune raison de taxer les machines agricoles. Il n'y a aucune raison de taxer les biens d'équipement. Bon, par contre, les secteurs que nous avons décidé de développer en Guadeloupe, il faut les protéger. Et ça, tous les pays l'ont fait, y compris les pays d'Asie. Ils ont, dans un premier temps, pour permettre le développement de leur industrie et de leur agriculture, il faut protéger. Ça, c'est une évidence. Si quelqu'un me dit que c'est pas une évidence, eh ben je dis les faits sont là. Bon, donc c'est une évidence. Alors pour faire ça, eh ben il faut les moyens. Et d'ailleurs,
donc les moyens, les politiques, moyens institutionnels, juridiques
et politiques. Alors moyens juridiques, le statut départemental ne permet pas de mettre en place un régime douanier, ne permet pas de mettre en place un régime fiscal. Parce qu'on entend en Guadeloupe, pendant les élections, les gens dire, ah oui, on va faire une réforme de la fiscalité. Mais c'est couillonnade. Comment un département peut faire une réforme de la fiscalité? Par contre, si vous êtes un pays autonome, si vous êtes un pays, comme le sera bientôt Saint-Barthélemy, au 1er janvier 2012, eh bien, vous avez, dans les compétences que vous avez cette compétence fiscale, vous avez cette compétence douanière, vous avez une compétence en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière d'environnement. Ce sont des compétences que nous allons réclamer et nous laissons à la France, puisque nous ne sommes pas indépendants. Il faut bien comprendre la différence entre l'autonomie et l'indépendance. C'est que vous faites toujours partie du territoire français, mais vous ne faites pas partie du territoire douanier européen. Donc le droit communautaire ne s'applique pas en Guadeloupe, si vous êtes autonome comme nous le souhaitons. Et donc, voilà, c'est ce que nous proposons aux Guadeloupéens. Et nous disons aux Guadeloupéens, si vous êtes bien comme vous êtes, si vous considérez que c'est normal qu'il y ait autant de chômage, si vous considérez que cette violence qui est le résultat de cette situation sociale continue à exister, eh bien, restez comme cela. Sinon, il y a une alternative. Et nos voisins de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, nous ont montré la voie, ont pris décidément, délibérément, la décision d'aller dans un autre statut.
Alors, Éric Bagassien, qui depuis tout à l'heure trépigne, et puis si ce n'est pas la question d'Éric, on reviendra d'un mot sur Saint-Martin, parce que mais Saint-Martin, ça coince un peu. Hein,
oui, c'était un peu le prolongement, parce qu'il a répondu déjà en partie à ma question. Justement, on a l'exemple de Saint-Martin, où on reconnaît qu'ils ont énormément de difficultés à mettre en place cette fiscalité saint-martinoise.
Non, j'ai assisté à deux réunions sur Saint-Martin. Une à Maïgalante, où j'ai été invité pour intervenir sur la fiscalité. Et l'autre, il y a M. Guns, qui est président de la COM de Saint-Martin, qui est venu. Bon, il est très content, il est satisfait, parce que ils ont un problème. Ils ont actuellement un déficit de 5 millions d'euros. Bon, mais je vous fais remarquer que pratiquement toutes les communes de la Guadeloupe sont en déficit aussi. Bon, ils ont un déficit, mais ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant, ils ont fait beaucoup de choses déjà. Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont autonomes, enfin autonomes, ils sont un peu autonomes. Hein. Nous, on veut aller plus loin que ça. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut dire, si on est honnête dans l'analyse, c'est que Saint-Martin, jusqu'en 2008, percevait 9 millions d'octroi de mer, de recettes, parce que c'était une commune de la Guadeloupe. Et du jour au lendemain, Saint-Martin s'est retrouvé sans cette recette. Peut-être qu'ils n'avaient pas préparé, peut-être qu'ils n'avaient pas anticipé. Bon, mais en tout cas, ils sont retrouvés subitement sans 9 millions de recettes. Et ils sont en train de mettre en place une fiscalité nouvelle pour progressivement récupérer plus de recettes. Et ils demandent, ils sont d'ailleurs au Conseil d'État sur ce problème, et ils disent que l'État doit compenser le manque à gagner qu'ils avaient quand ils avaient l'octroi de mer.
Donc vous pensez que c'est une période d'adaptation et que
pour
ça
moi,
ira
c'est une
beaucoup
période d'adaptation
mieux.
Parce que ils sont très optimistes et parce que ils sont sur la même île que Saint-Martin. Qui est autonome.
Quand vous dites les dirigeants ou la population? La population n'a pas l'air de partager, de comprendre.
Oui, mais la population, je sais pas, on n'a pas fait de consultation. On ne sait pas, parce qu'il y a toujours les mécontents, on entend les mécontents. Mais en tout cas, M. Gumbs dit s'il fallait recommencer, nous allions recommencer, parce que on est en train d'avancer avec des difficultés. Mais imaginez la commune des Abîmes, qui est la commune qui touche le plus d'octroi de mer, où les recettes d'octroi de mer rentrent à plus de 40% dans les recettes dans le recette de fonctionnement de la commune des Abîmes, du jour au lendemain se retrouvaient sans octroi de mer. Que feraient les Abîmes? Les Abîmes seraient en faillite complète. Donc ils ont ce problème là, mais je pense que c'est un problème bon, alors quand même avant de terminer, moi je comprends pas Saint-Martin à la Guadeloupe. Parce qu'on pourrait faire un long débat hein, parce que Saint-Martin c'est un port franc. Et en tant que port franc ne perçoit aucune taxe à l'importation. Aucune taxe. Donc, Saint-Martin est obligé d'inventer des taxes nouvelles, loi de quai, en fait, d'autres taxes. Mais alors que nous avons des recettes fiscales. Nous avons des recettes fiscales. Comment les communes de la Guadeloupe fonctionnent? C'est bien avec l'octroi de mer. Comment on fait les routes en Guadeloupe? C'est bien avec la taxe sur les carburants. Donc, il y a des recettes qu'on peut améliorer. On peut aussi avoir beaucoup plus de recettes, puisque nous disons, au niveau du CIPA, que toutes les taxes perçues par l'État, tous les impôts perçus par l'État en Guadeloupe et par l'Europe, eh bien, doivent revenir à la nouvelle collectivité guadeloupéenne.
Y compris donc les impôts indirects qu'on évoquait
voilà,
tout à l'heure.
TVA, la TVA.
Bon. Taxe sur les carburants. Voilà. Leur file, je voudrais qu'on avance, Eric, une autre question.
Oui,
sinon, puisque vous parliez, juste, je rebondis là-dessus, et puis je vous laisserai la parole ensuite après, Eric, vous parliez de port et de Saint-Martin, port franc. Il y a un projet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le fameux projet de grand port pour la Guadeloupe. Alors, je suppose que vous suivez cela avec beaucoup d'attention, Alain Plaisir. Est-ce que vous en attendez de véritables perspectives de développement pour la Guadeloupe? Est-ce que ça vous paraît, là, voilà, quelque chose d'intéressant et de porteur?
Je vous dirais tout de suite que je ne suis pas contre le grand port, hein, en eau profonde. Certains sont contre, mais moi, je ne suis pas contre. Et ça n'a pas révolutionné la Guadeloupe. Mais c'est une nécessité technique. Quand vous aurez des bateaux qui auront un tirant d'eau supérieur à 15 mètres, ces bateaux-là ne pourront pas rentrer en Guadeloupe. Donc, il y a une nécessité déjà technique d'avoir un port en eau profonde. Bon, de même que si demain l'Airbus 380 arrive à Pointe-à-Pitre, il faudra faire des aménagements. Donc, voilà l'aspect technique, sans rentrer dans l'aspect idéologique. Bon. Ensuite, un port, c'est une entreprise. D'ailleurs, partout dans le monde, on fait le maximum pour avoir le port le plus performant pour attirer le trafic. C'est le cas en France où on essaie de récupérer le trafic du port du Havre qui est parti à Rotterdam. Parce qu'un port, ça crée de l'entreprise, ça crée de l'activité. Et nous avons besoin de l'activité, nous avons besoin de créer d'emplois. Donc, il faut ce port-là, il faut qu'on le fasse. Si on le fait pas, d'autres le feront. D'ailleurs, vous voyez que nous sommes en compétition, la Martinique est déjà prête à faire son port. Et il y a un consensus au niveau des élus, même des syndicats et même de la population pour qu'on ait ce port à Martinique. Donc il faut le port. Ensuite, après, les problèmes que certains ont évoqués, des problèmes d'envahissement de la Guadeloupe par des marchandises extérieures, ça c'est un problème politique, c'est le problème des échanges. Il suffit de décider qu'on protège son nombre de produits, eh bien, ces produits-là seront protégés. Et ça, c'est dans le cadre de l'autonomie. Mais même dans le cadre de la départementalisation, il y a ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Donc, on peut mettre en place une politique qui éviter qu'il y ait... Bon. Ensuite, le problème de l'importation, c'est lié aussi au marché. Si on consomme 30 000 tonnes de poissons en Guadeloupe, c'est pas parce qu'il y aura un port en eau profonde qu'on va consommer 60 000 tonnes. On est d'accord. Puisque les importations correspondent à un marché. Quand un importateur achète une marchandise, il faut qu'il soit sûr de vendre cette marchandise. Prenons un autre exemple qui est plus simple. En Guadeloupe, on achète environ 15 000 voitures. 15 000 voitures par an. C'est pas parce qu'il y a un port en eau profonde que les importateurs vont faire 20 000 voitures. Ils font venir, parce qu'ils ont étudié le marché, ils font venir les marchandises qui savent qu'ils vont vendre. On est bien d'accord.
Donc c'est pas le grand port ou le port en eau profonde qui va augmenter le volume des importations. Voilà. On continue d'avancer. Eric.
Non, je voulais juste dire, ils peuvent tout de même susciter des besoins, créer des besoins.
C'est la question qu'on se pose toujours. Oui, l'offre, créer la demande ou la demande créer l'offre. On avance parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes. On a beaucoup parlé d'importation, de marché, de tout cela. Ça nous ramène bien sûr également à un débat que l'on a bien connu ici et qui se repose encore du côté de Mayotte. La profitation, la lutte contre la vie chère. Deux mots d'abord sur la situation à Mayotte et puis ensuite sur ce qui se passe ici. Avec les derniers développements judiciaires autour des magasins du groupe CED, avec cette étude que le BO, vous présidez, le Bureau d'études ouvrières, a livré il y a quelques temps. Tout d'abord, sur la situation à Mayotte, un mois de grève générale, un mort dans des conditions qui ne sont pas encore tout à fait élucidées, une forte mobilisation et une situation et des propos qui nous rappellent vraiment ce que l'on a connu ici en 2009.
Tout à fait. Et les causes sont presque les mêmes. Il y a des prix très chers à Mayotte, beaucoup plus cher qu'en Guadeloupe, et les gens ont du mal à consommer. Et donc il y a un problème de vie chère, mais qui est lié aussi à une situation politique, à une situation juridique, parce que Mayotte a été rattachée qui était une île des Comores. Ça a été rattaché à la France. Ensuite, c'est devenu un département. Alors, on a fait miroiter aux gens qu'en étant département français, ce serait un avenir radieux. Bon, ils se rendent compte que, ils paient des impôts. Ils payaient pas avant, ils paient des impôts. Les gens qui ont leur maison, ils paient l'impôt foncier. Toutes les marchandises viennent d'Europe. Mais surtout, comme ce département français, il y a une administration française. Il y a un préfet, il y a des fonctionnaires qui, bon, et ces fonctionnaires ont un gros pouvoir d'achat. Ce sont des gens qui ont une prime d'éloignement qui existe toujours, qui a été supprimée en Guadeloupe il y a environ 10 ans, mais qui existe là-bas, et ils ont des sursalaires. Donc même si c'est cher, ils arrivent à faire face. Et ça crée, si vous voulez,
des distorsions, ça tire les prix vers le haut.
Voilà.
Alors qu'il y a toute une partie de la population,
toute la population les autres n'arrivent pas à consommer. Donc voilà le problème. Et la vie est vraiment chère là-bas.
La vie est également chère ici. On s'en rend compte. Je le disais, il y a ce rapport que le BEO a donc publié il y a deux ou trois semaines maintenant. Et puis il y a toutes ces évolutions juridiques autour des magasins du groupe CED. Deux ans après, un petit peu plus, même deux ans et demi après la mobilisation, les journées, ces journées de grève générale, le mouvement du LKP. Où en est-on aujourd'hui? En tout cas, quel regard vous portez sur tout cela et sur la situation aujourd'hui? Alain Plaisir, est-ce que, d'abord, première question, est-ce que le LKP, c'est fini?
Non, je ne peux pas dire que le LKP est fini. Le LKP en 2011 ne peut pas être le LKP de 2009, parce qu'en 2009, nous étions dans une phase de mobilisation, et donc toutes les organisations étaient mobilisées autour d'un objectif. Maintenant, nous ne sommes plus dans la phase de mobilisation. Donc, forcément, le LKP en 2011 n'est plus le LKP de 2009.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que vous avez en 2009 dénoncé les profiteurs, est-ce que vous ne pensez pas avoir un peu servi les intérêts de ces profiteurs lorsqu'on regarde, pour ne pas le citer, un groupe, Ayotte, qui n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, qui rachète d'ailleurs tout ce qui ferme, dans le secteur, notamment dans la grande distribution?
Oui, mais on n'avait pas l'intention, en tout cas moi, je pensais pas lors de la grève qu'on allait abattre Ayotte. Nous, on a lutté pour des choses très concrètes. Il fallait que les prix de 200 produits de première nécessité baissent. Et ces prix-là ont réellement baissé. Nous avons fait des relevés quelques temps après. Certains prix ont rattrapé les prix d'avant 2009. D'autres n'ont pas tout à fait rattrapé. C'est sûr que ceux qui ont de l'argent ce sont mieux tickets d'affaires. Bon, vous parlez d'Ayotte, eh bien c'est mieux tickets d'affaires que d'autres. Mais on avait raison de le faire parce que il y avait nécessité de faire baisser les prix de première nécessité. Et je constate, même si les prix ont continué à augmenter, hein, mais ça c'est pas de notre ressort, parce que l'État est resté inerte, les élus sont restés inertes. Parce que je rappelle que nous avons négocié. Moi, j'étais dans la négociation, j'étais responsable de la négociation. Nous avons négocié sur la baisse des marges. Ça, c'était avril 2009. Et on a négocié sur la baisse de l'octroi de mer, sur tous ces produits. Et ces baisses devaient être appliquées en octobre 2009.
Oui, c'est bien parce que ce que vous dites, pour l'instant, c'est la population qui tient. Et pourtant, elle vous a suivi dans
votre démarche. Vous croyez que la population n'aurait pas trinqué s'il n'y avait pas eu le mouvement LKP? Je rappelle quand même que dans les trois DOM d'Amérique, là, les départements français d'Amérique, c'est en Guadeloupe que la vie est moins chère. Donc, ça veut dire que les gens qui ne sont pas mobilisés ou sont mobilisés moins que nous, c'est pas pour autant que la vie... parce qu'on a tendance à faire croire aux gens que c'est parce qu'il y a que l'LKP que la vie a augmenté. Non, la vie était chère. On était sur une courbe de croissance des prix. Nous, on a donné un coup d'arrêt. On a dénoncé la profitation. On a expliqué le mécanisme des prix. Parce qu'on a tendance à ramener cette affaire-là. Oui, ils ont fait grève, mais ça passait bien. Non, je dis que ça a servi. Premièrement, c'est un mouvement historique. Parce que même à Mayotte, là, on fait référence au LKP. Deuxièmement, on a fait quelque chose que les autorités n'ont jamais fait jusqu'à présent, expliquer pourquoi la vie est chère. Nous, on a démonté le mécanisme. On a expliqué pourquoi la vie est chère. On a expliqué le mécanisme. Ça, c'est un acquis. On pourra plus dire aux gens la vie est chère parce que c'est le transport ou c'est la douane. On a expliqué la profitation. On a obligé le gouvernement à faire les états généraux. On a obligé le gouvernement à envoyer ici l'autorité de la concurrence. Il y a eu une commission d'enquête du Sénat. Donc, on a quand même fait bouger les choses. Mais après, il appartient au pouvoir politique, c'est-à-dire aux gens qui nous dirigent et qui sont restés inertes. C'est à eux aussi de prendre les choses en main. C'est à eux de défendre les intérêts de la population. Parce que nous sommes des bénévoles. Hein. Moi, j'anime le BO, mais je suis un bénévole à 100%. Et les gens qui travaillent dans le BO, ce sont des bénévoles. Alors que vous avez des gens qui sont grassement payés, qui se battent pour des postes de sénateurs, qui cumulent des mandats et qui sont complètement absents quand on parle de défendre les intérêts concrets des travailleurs.
Justement, Alain Plaisir, et pour pratiquement finir ce nouveau numéro de politique première.
Déjà,
ça passe vite. On en revient à la politique, aux élections, avec bien sûr un rendez-vous qui est déjà dans l'esprit de tout le monde, celui de mai prochain, l'élection présidentielle. La semaine dernière, le Parti Socialiste s'est donc choisi son candidat, ce sera François Hollande. Vous, qu'est-ce que vous attendez de l'élection présidentielle? Qu'est-ce que vous attendez d'une éventuelle victoire de la gauche, de François Hollande, en l'occurrence, pour la présidentielle? Est-ce que cela pourrait amener un changement, à votre avis, y compris sur la situation très concrète en Guadeloupe, des prix ou de l'emploi?
Je n'attends pas vraiment beaucoup de choses du futur président. Ce qui est sûr, c'est que nous allons interpeller le CIPA, et c'est la proposition que nous allons faire aux autres organisations. Nous allons interpeller tous les candidats, sauf le candidat d'extrême droite, sous la question économique, la question sociale et la question politique en Guadeloupe. Donc la question du statut. Et donc on verra bien qu'est-ce qu'ils vont répondre et qui va répondre. Mais en tout cas, il y a une interpellation guadeloupéenne sur le projet guadeloupéen. Le projet élaboré par les organisations et les personnes qui souhaitent un réel changement. Donc nous allons interpeller. Alors si on devrait souhaiter quelque chose, c'est qu'il y ait moins d'inégalités en France comme en Guadeloupe. C'est que le candidat qui sera élu mette en place une politique de justice sociale et une autre politique économique. Si on pouvait souhaiter quelque chose.
Vous n'avez pas de préférence particulière, soit la gauche ou la droite? Vous pensez que c'est bonnet, blanc, bonnet, ou vous pensez que la gauche pourrait améliorer la situation
des... Non, je ne suis pas comme ceux qui disent la gauche et la droite, c'est pareil. Pourquoi? Ce n'est pas une question de personne. Hein. Ce sont les forces sociales qui votent à gauche qui nous intéressent. Et les forces sociales qui votent à gauche, en général, ce sont des salariés, des petits fonctionnaires, des gens qui font la France, qui font la Guadeloupe, et eux, ils sont épris de justice sociale. Et donc, ces forces-là, Je pense qu'ils doivent pousser le futur président, s'il est de gauche, à faire véritablement une politique de gauche. Parce que vous pouvez être de gauche et faire une politique de droite. Et nous espérons que si un président de gauche, il fasse réellement une politique de gauche, c'est-à-dire une politique en faveur des classes défavorisées, en faveur de la justice sociale et en faveur d'une autre économie qui ne soit pas une économie libérale.
Alain Plaisir. Oui, Eric ? Allez-y.
Non, c'était juste pour mon information. Est-ce que bon, justement, en faveur des classes défavorisées, vous pensez que bon, vous balancez davantage vers Mélenchon ou François Hollande ou
ah, si vous voulez parler franchement, vous aussi de choisir, ce serait plutôt pour Mélenchon, le front de gauche, parce que il veut s'attaquer à la finance. C'est le cas du CIPAN, on veut s'attaquer à la finance, on veut faire payer les riches, le Front de Gauche veut faire payer les riches, on veut mettre un holà à la politique libérale, et c'est ce que veut faire le Front de Gauche. Donc nous sommes plus proches, c'est presque un scoop, nous sommes plus proches de ces gens-là que des autres.
Donc le CIPAN n'appellera pas à soutenir et à voter pour François Hollande?
Ah non, non. En tout cas pas au premier tour. Même si on dit que c'est pas blanc bonnet blanc, on votera pas, parce que c'est quand même des gens qui ont été au pouvoir, la gauche, et qui n'ont pas fait une politique véritablement de gauche. Donc on va pas donner de blanc-seing à ces personnes-là. En tout cas au premier tour, c'est sûr qu'on ne votera pas pour le candidat de gauche.
Merci Alain Plaisir. Un tout dernier mot, le BO continue de travailler. Il y a eu cette étude qui a donc été rendue publique il y a 3 semaines maintenant. Il y en a une prochaine bientôt en livraison. Il y a quelque chose qui
oui,
se prépare.
Oui, on travaille sur les matériaux de construction. Parce que là aussi, il y a une véritable profitation. Je profite, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Sur quoi on travaille? Eh bien, on travaille sur les matériaux de construction, parce qu'il faut savoir que les matériaux de construction sont très chers en Guadeloupe. Et ces matériaux ne paient pas de TVA, sont exonérés de TVA dans les DOM, paient 19,60 de TVA en France et paient 0 en Guadeloupe. Et malgré tout, ces matériaux sont nettement plus chers qu'en France. Et ces gens-là ont refusé de négocier avec nous. Parce qu'ils savaient que face à nous, on aurait pu démontrer qui sont les rois de la profitation. Donc, on va travailler sur il y aura un journal qui parlera de la profitation pour les matériaux de construction.
Merci encore, Alain Plaisir. Dirigeant et fondateur, je le disais, du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Merci d'être venu répondre à nos questions. Dimanche prochain, bien évidemment, un nouveau rendez-vous pour Politique Première, comme chaque dimanche, 17h10, 18h. Demain matin, vous avez rendez-vous avec la fine équipe des matinales. C'est Christelle Martial, je crois, qui sera aux commandes avec Josiane Champion. Voilà, Darius, merci.
Merci, monsieur Lefebvre.
Bonne soirée.
Merci plutôt. Le CIPAC est sur Internet, d'ailleurs. Hein, c'est ippa.gp pour en savoir un petit peu plus sur le comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Merci beaucoup, monsieur Plaisir.